magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Cela s'est fait au milieu des protestations de ses partisans, mais le 7 avril dernier, l'ancien président brésilien Lula da Silva partait en prison.
Ils ont décidé de me mettre en prison et je vais accepter d'y aller. C'est la preuve de ma bonne foi, je me soumets aux ordres. Et vous, vous tous, vous allez devoir, vous, les João, les Maria, les Alberto, les José, chacun de vous va devoir se transformer en Lula.
Lula est en prison, pourtant dans une tribune publiée par le journal Le Monde, datée du jeudi 17 mai, il annonce sa candidature à la présidence du Brésil pour les élections d'octobre prochain. Dans cette tribune, Lula écrit, je le cite, « Au cours des 8 années pendant lesquelles j'ai gouverné ce pays, puis lors du gouvernement de Dilma Rousseff, nous avons sorti 36 millions de personnes de l'extrême misère et permis à 40 millions de rejoindre la classe moyenne. En décembre 2014, écrit-il plus loin dans ce texte, le taux de chômage était de 4,7%, il est aujourd'hui de 13%. La pauvreté a augmenté, la faim vient rôder et les portes des universités se ferment à nouveau pour les enfants de la classe ouvrière. Vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui de la situation économique brésilienne à quelques mois d'élections présidentielles qui s'annoncent d'une importance considérable, des réformes qui ont été accomplies ces dernières années ou pas, des difficultés auxquelles fait face la population de ce vaste pays. Tout cela avec les trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Jean-Yves Carfentan.
Bonjour.
Jean-Yves Carfentan, vous vivez au Brésil depuis de longues années. Vous êtes directeur associé d'un bureau d'études spécialisé en investissement et marchés agricoles. Et vous venez de publier aux éditions François Bourin un livre intitulé « Brésil, les illusions perdues » sous-titre du naufrage au redressement dont il sera question dans cette émission. À vos côtés dans ce studio, Pierre Salama, bonjour.
Bonjour.
Pierre Salama, vous êtes un spécialiste très réputé des économies latino-américaines. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 13 et un des derniers livres que vous ayez publié est aux éditions Armand Collin. Son titre, « Les économies émergentes latino-américaines ». Enfin, je termine cette présentation par vous, Ludovic Subran, bonjour.
Bonjour.
Ludovic Subran, vous êtes l'économiste en chef de la compagnie d'assurance allemande Allianz et du réassureur Euler Hermes. Au cours de cette émission, vos commentaires à vous trois messieurs, mais aussi des reportages signés François Cardona, le correspondant de RFI au Brésil et des sondes d'archives. Jean-Yves Carfentan, comment réagissez-vous à cette tribune de Lula dont j'ai lu quelques passages dans l'introduction de cette émission ?
Le Parti des Travailleurs est un parti qui a toujours été...
Le Parti de Lula, donc,
est un parti qui a toujours été extrêmement performant en termes de communication. Il a conservé en France des réseaux extrêmement efficaces, qui sont aujourd'hui utilisés. Ce qui me frappe, c'est le contraste qu'il y a entre cette communication dans les médias français et la distance que le monde politique et la société en général est en train de prendre par rapport à cet épisode, qui a, à la limite, je parle de l'arrestation de Lula, fait plus de bruit dans les médias internationaux que sur le plan Brésil lui-même. Le lendemain de l'arrestation de Lula, je suis monté sur l'avenue Paulista, qui est une des grandes avenues de São Paulo, faire mon footing dominical, et je m'attendais à trouver quelques manifestations de protestation. J'ai trouvé des gens qui faisaient de la gymnastique.
Comme vous. Mais sur ce passage que j'ai lu, sur cette insistance sur la réussite de la politique anti-pauvreté de Lula et de Dilma Rousseff, du Parti des Travailleurs donc.
Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je crois que le Parti des Travailleurs et les partis qui gouvernaient avec Lula, parce qu'une partie des problèmes viennent de là, a surfé sur une période extrêmement favorable. Malheureusement, sans accomplir, sans mettre en œuvre les réformes fondamentales qui auraient pu être accomplies à ce moment-là. Si on veut lutter contre la pauvreté, c'est beaucoup plus important de réformer et de développer l'école, par exemple, plutôt que de consolider des programmes de distribution de revenus comme cela a été fait. qui ne représentent que 0,5% du PIB et qui sont relativement peu importants sur le long terme.
On dépense.
Pierre Salama, je vous vois faire la moue.
Non, c'est pas exact. C'est pas exact. La bourse famille représente à peu près 0,7%, mais il y a aussi d'autres programmes sociaux. Donc je pense qu'il ne faut pas caricaturer.
Donc comment interprétez-vous le passage de la tribune de Lula que j'ai lu tout à l'heure?
J'ai probablement pas la même sensibilité. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je lis quotidiennement Au Valor, qui est un journal économique par excellence au Brésil. Qu'est-ce que l'on peut observer? C'est que Lula, s'il devait se présenter, eh bien, c'est celui qui a le plus fort pourcentage de votation et de loin. 44%, quand ils disent qu'il y a une distance, que c'est des médias, c'est de la manipulation, c'est je ne sais trop quoi. Non, il a 44% de gens qui veulent voter pour lui. Et si vous regardez de l'autre côté les scores de Meirelles, qui était au pouvoir jusqu'à pas très longtemps, et de Temer, vous voyez...
Temer, c'est l'actuel président. Hein.
Temer est l'actuel président, et Meirelles était le ministre de l'économie, et qui sont dans des scores absolument pitoyables. Et d'ailleurs, je pourrais presque dire que le grand problème à l'heure actuelle du Brésil, c'est qu'il n'y a personne en dehors d'un... un capitaine de l'armée qui peut être face à Lula.
Alors, Ludovic Subran, est-ce que vous allez départager Pierre Salama
Moi, je suis
et biaisé, Jean-Yves Carfentan?
Je suis biaisé parce que j'ai malheureusement travaillé sur Bolsa Família avec les gouvernements brésiliens, donc je pense que c'est un programme qui a fait des merveilles. Le problème de la gauche brésilienne pragmatique, à l'époque on disait, quand on l'opposait à d'autres gauches latino-américaines beaucoup moins pragmatiques, on voit les effets chavistes, etc. C'est que la gauche brésilienne n'a jamais eu son moment macronien. C'est-à-dire, elle n'a jamais fait ses ouvertures, par exemple, des frontières. C'est une économie encore très fermée. Mais en revanche, la rationalisation des programmes d'aide, avec un coût efficacité très important, a sorti des dizaines de millions de Brésiliens de la pauvreté. Après, la question, c'est la mobilité sociale, vous en parlez. C'est-à-dire que sur l'éducation, la santé, la sécurité sociale, on le voit avec la réforme des retraites aujourd'hui, il y avait beaucoup d'autres choses à faire. Et c'est vrai que le faible capital politique, notamment avec les États, parce que on voit l'État de Rio, par exemple, a fait des choses incroyables sur l'éducation. En fédéral, on n'arrivait pas à le faire. Nous, on a vu à la Banque mondiale, par exemple, où je travaillais à l'époque, on avait beaucoup plus de relais dans le dialogue de politique publique avec les États qu'avec le gouvernement fédéral pendant très longtemps sur les aspects des secteurs sociaux. Donc, moi, je serais moins dur sur les effets de cette gauche pragmatique sur la lutte contre la pauvreté. En revanche, il manquait tout un volet de très consensus de Washington, malheureusement, mais qui aurait pu marcher à ce moment-là au Brésil parce qu'ils avaient ce vent arrière.
Très consensus de Washington, ça veut dire un peu libéral.
Ça veut dire que oui, ils auraient dû ouvrir davantage les frontières. Je me rappelle très bien le marché de l'auto brésilien. Les Brésiliens disent, venez, on a une classe moyenne, venez exporter vos automobiles. Et juste après, ils mettent une taxe à l'import de 35%. Et donc, c'est vrai qu'ils ont tué la production automobile, ou du moins le rôle que le Brésil aurait pu jouer sur
Alors,
la valeur.
On va parler de tout ça, mais revenons à l'investiture de Lula Ignacio da Silva le 1er janvier 2003. Parmi les caps qu'il fixe, il y a la lutte contre la misère et contre la faim.
Je souhaite avant tout convoquer mon peuple à un grand rassemblement civique contre la famine. Dans un pays qui compte autant de terres fertiles et de gens qui veulent travailler, il n'y a pas de raison pour parler de famine. Malgré cela, des millions de Brésiliens, à la campagne comme dans les villes, n'ont pas de quoi manger. Ils survivent miraculeusement sous le seuil de la pauvreté quand ils ne meurent pas en train de supplier pour un morceau de pain.
Et 8 ans plus tard, Dilma Rousseff reprend les mêmes promesses, les mêmes engagements, lors de son discours d'investiture le 1er janvier 2011.
La lutte la plus acharnée de mon gouvernement vise à éradiquer l'extrême pauvreté et à créer des opportunités pour tous.
Une expressive mobilité sociale.
Durant les 2 mandats du président Lula, il y a eu une vaste mobilité sociale. Mais la pauvreté est toujours là. Elle fait honte à notre pays et empêche notre pleine affirmation comme nation développée. Je ne me reposerai pas tant qu'il y aura des Brésiliens qui n'auront pas de quoi manger, tant qu'il y aura des familles qui vivent dans la rue et des enfants abandonnés à leur sort. Le bonheur d'une famille, c'est avoir de quoi manger avec la paix et la joie. Voilà le rêve que je poursuis.
Est-ce qu'il y a toujours autant de gens pauvres aujourd'hui, Pierre Salama, au Brésil, qu'il y en avait en janvier 2003 lorsque Lula a pris le pouvoir ?
Il y a une montée très forte de la pauvreté et des inégalités depuis 3 ans, 4 ans. Pour une raison très simple, c'est que le Brésil a connu ces dernières années sa plus grave crise depuis 1930. C'est incroyable, il y a moins 10% au final de PIB de croissance, c'est énorme.
De produit intérieur brut en moins.
Le chômage, en moins bien sûr, le chômage a augmenté, puisque maintenant il est autour de 13%, c'est le chiffre que vous aviez donné, maintenant il régresse légèrement. Et donc les revenus ont baissé un peu, mais pas tellement, mais la masse des revenus, elle, a baissé, et la pauvreté s'est accrue de manière assez fantastique. Et ça, c'est une crise économique qui a peine à se transformer en reprise à l'heure actuelle. On a espéré une petite reprise et là, les dernières données nous montrent que c'est pas le cas. Donc, le paye très très cher ceux qui ont remplacé Dilma de manière, disons, légale, mais un coup d'État légal tout de même, et ils le payent très très cher au niveau, ne serait-ce que, peut-être le voyez-vous pas à l'avenue Paoliste, mais au niveau des scores pour les votations, si je puis dire. Et ça, c'est que je crois qu'à l'heure actuelle, le Brésil a un très gros problème. Le problème de sa pauvreté, de résoudre sa pauvreté, passe au travers de la manière de résoudre la crise institutionnelle qui existe à l'heure actuelle au Brésil. Ça, je crois que c'est un grand problème.
Jean-Yves Carfrantan, j'ai donné tout à l'heure le titre de votre livre, Brésil, les illusions perdues, aux éditions François Bourin. C'est les illusions perdues, c'est cet échec à lutter contre la pauvreté de manière définitive, c'est quoi ?
J'ai tendance, quand on met le projecteur sur quelque chose, à me dire que l'essentiel est ailleurs. Pour moi, le problème fondamental du Brésil, c'est que l'État obéit à deux logiques. C'est d'un côté un État qui, effectivement, essaye de fournir un certain nombre de services à la population, et c'est de l'autre côté un État qui octroie, qui facilite l'accès à des rentes. C'est un État qui entretient des relations extrêmement complexes, voire incestueuses, avec la plupart des entreprises. Les grandes entreprises brésiliennes sont en permanence en train de cultiver des relations avec l'État pour dégager, pour obtenir des rentes et financer ainsi la perpétuation au pouvoir d'un certain nombre de partis. On l'a vu récemment, depuis 15 ans, avec tous les scandales qui se sont... Tant qu'on n'a pas touché à cette logique de captation de rente, de renouvellement des faveurs que l'on concède à un certain nombre de groupes, tant qu'on n'a pas remis en cause un certain nombre de privilèges, tous les efforts qui pourront être faits resteront minés par cette espèce de parasitage. 53% du budget, des dépenses primaires du budget fédéral, ce sont des dépenses de retraite. À partir du moment où vous avez aligner toutes les dépenses qui correspondent largement à des situations de faveur ou de privilège, vous avez peu de ressources disponibles pour effectivement faire un investissement sérieux dans le domaine de l'éducation, par exemple, dans le domaine de la santé publique. Je connais un peu le domaine de la santé publique parce que j'ai des relations familiales avec beaucoup de gens qui travaillent dans ce secteur et je vois comment ce secteur avance avec beaucoup de difficultés, des îlots d'excellence et un service collectif qui est particulièrement délabré. La plupart des États brésiliens ont leurs finances plombées par cette logique de redistribution, de concession de privilèges, de faveurs à un certain nombre de groupes, de lobbies, de corporations bien organisées. Tant qu'on n'aura pas touché à cette question, le problème n'est pas libéral, pas libéral, le problème est de toucher à cette logique de fabrication et de distribution de rente.
Distribution de rente, pas d'ascenseur social, Ludovic Subran.
Je voulais répondre à votre question précédemment aussi. En 2003, il y a 40 millions de pauvres au Brésil. Aujourd'hui, il y en a moins de 10 millions. Donc la récession qu'a connue le Brésil en 2015, qui s'est continuée malheureusement en 2016 et dont ils sortent aujourd'hui, c'est plus du tout la même pauvreté que le pays qui a pris Lula au début des années 2000. Enfin, il faut vraiment...
Il faut regarder aussi la démographie.
Bien sûr, non bien sûr. Mais c'est important de pas créer des générations de pauvres. Parce qu'un des problèmes du Brésil au début des années 2000, c'est la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Et celle-ci aujourd'hui, bien sûr qu'elle n'est pas finie. Vous avez encore des jeunes dont les parents n'ont pas de boulot et qui ne vont pas aller à l'école et qui vont grandir dans la pauvreté. Mais je crois que dans la vraie question aujourd'hui, c'est de ne pas sanctionner trop vite le Brésil sur son futur. C'est-à-dire les vulnérabilités structurelles du Brésil sont toujours là. Et c'est vrai, c'est un pays qui redistribue plus qu'il ne produit. La récession, en revanche, brésilienne de 2015, c'est une récession pire que la plupart des pays émergents, mais qui a touché tous les pays émergents, parce que c'est un moment où les prix des matières premières n'étaient pas au bon endroit pour un pays exportateur net comme le Brésil. C'est un moment où on a une montée des taux américains, une montée du dollar, et donc une dépréciation du réal, et donc une perte de pouvoir d'achat. C'était un mauvais moment. Aujourd'hui, le Brésil sort de récession, mais surtout, moi, Pierre Salin disait, on ne sait pas si cette reprise va être durable. Moi, en tant que macroéconomiste, je suis plutôt très confiant. C'est-à-dire que les vulnérabilités brésiliennes macroéconomiques se sont fondamentalement réduites. On a aujourd'hui 20 mois de couverture d'import. On avait 3 fois moins il y a encore quelques années. On a aujourd'hui, c'est vrai, un endettement public qui est important, mais un endettement privé en dollars, par exemple, qui fait moins de 10%. De la dette totale, alors qu'en Turquie, c'est 90%, vous voyez. Donc, il y a forcément encore des sujets. Il y a un agenda de politique publique énorme. La question, c'est qui va se retrouver aux commandes et est-ce qu'il peut vraiment changer les choses? Parce que ça, c'est le problème capital politique.
On aura la réponse au mois d'octobre prochain. Mais après la destitution de Dilma Rousseff en 2016, sous le gouvernement donc de l'actuel président Michel Temer, une politique d'austérité a été mise en place. Cela veut dire en particulier réduction des dépenses publiques pour contenir le déficit. La récession des années précédentes a provoqué une précarisation importante des couches sociales les plus vulnérables et les chômeurs recherchent des revenus complémentaires dans le secteur informel. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé François Cardona à Rio de Janeiro.
Dès le petit matin, la file d'attente commence à s'allonger devant le Centre Régional du Travail. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, aujourd'hui ils sont plusieurs dizaines à être venus s'inscrire au registre du chômage. Eduardo était mécanicien, il a été licencié il y a quelques mois du garage où il travaillait depuis 3 ans. Il espère obtenir une offre d'emploi, mais il est amer.
Tout le monde est désemparé ici, le Brésil n'est pas...
Tout le monde cherche un travail. Le Brésil est vraiment dans une très mauvaise passe. On est à la merci de Dieu. Regardez, ici c'est plein de gens au chômage. Tout le monde veut travailler, mais on n'y arrive pas. Beaucoup de mes amis sont au chômage aussi, et leurs enfants sont dans une situation précaire. Certains doivent même aller vendre des bonbons à la plage pour se faire quelques sous. Ça va prendre du temps avant de se remettre de tout ça. C'est dur, franchement.
Depuis son licenciement, Eduardo dépend des revenus de son épouse, femme de ménage, pour faire vivre leur famille de 4 enfants. Avec l'augmentation du chômage, la précarité augmente. 900 000 Brésiliens seraient sortis des classes moyennes et supérieures l'année dernière, en dépit de la reprise économique. À Rio de Janeiro, le nombre de personnes vivant dans la rue a triplé ces 3 dernières années. Cristina a aménagé un petit camion pour vendre des hot-dogs dans un quartier touristique de Rio. Son mari est au chômage depuis plus d'un an. Elle a vu la situation se détériorer rapidement autour d'elle.
Je vois beaucoup de chômeurs finir dans la rue parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur loyer, l'électricité, le gaz. Un de mes bons clients a arrêté de déjeuner à midi pour payer ses factures à la fin du mois. Et aujourd'hui même, 2 vendeurs n'ont pas réussi à vendre leurs quelques biscuits sur la plage. Alors je leur ai donné gratuitement un hot dog et une boisson. Tout le monde est dans la même situation.
La crise économique, cependant, n'est pas la seule responsable. Des centaines de millions d'euros d'argent public ont été détournés ces dernières années dans de vastes réseaux de corruption impliquant des hommes politiques locaux, dont l'ancien gouverneur, condamné à plus de 14 ans de prison.
Le Brésil est un pays riche. On ne devrait pas être dans une telle situation. Beaucoup d'argent a été volé, détourné. Ils ont pillé le Brésil et nous, on souffre énormément. Rio de Janeiro a été détroussé par ces voleurs. C'est triste. Parfois, ça me donne envie de pleurer.
Les effets de la reprise économique tardent à se faire sentir. Les années de récession ont durablement marqué le Brésil.
Un reportage signé François Cardona à Rio dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Sur RFI, nous parlons de l'économie brésilienne avec 3 invités, Jean-Yves Carfentan, Pierre Salama et Ludovic Subran. Pierre Salama, comment réagissez-vous à ce reportage ?
Non, je pense qu'il reflète une réalité. Surtout à Rio, on aurait pu ajouter la montée de la violence, qui est assez extraordinaire, et bien, y compris aussi à São Paulo. Alors que ces dernières années, enfin il y a 3, 4, 5 ans, la violence avait quand même relativement baissé à Rio et à São Paulo. Et par contre, elle avait monté dans le nord du Brésil. Là, maintenant, on est à nouveau une flambée de violence. Et je crois que là, ça pose un très très grave problème. Mais je voudrais revenir, si vous permettez, sur plusieurs points. D'abord, la récession a commencé, et vous le savez, avant la chute du cours des matières premières, à peu près un an ou deux avant. Pourquoi ? Parce que c'est la conséquence d'un modèle, et ce modèle, c'était une reprimarisation de l'économie, c'est-à-dire, en fait, exporter de plus en plus de produits primaires plutôt que de produits industriels, comme ça se faisait au passé. Avec une appréciation, comme c'était la bonance, ça, comme on dit, le vent arrière, l'expression que vous avez utilisée, beaucoup d'argent arrivé, pas seulement...
Là, quand vous vous adressez à Ludovic Subran, oui, là, quand le, vous...
Pas seulement les rentes provenant de l'exportation de matières premières, mais également l'argent qui venait des investissements étrangers directs et surtout aussi également des investissements en portefeuille. Donc beaucoup d'argent, l'appréciation de la monnaie a précipité une désindustrialisation qu'on appelle là-bas précoce, c'est-à-dire une chute de rentabilité de l'industrie. Ça, c'est, je crois, on le paye très très cher aujourd'hui, mais l'industrie n'est pas complètement détruite, et là, vous avez raison, à savoir qu'il y a des facteurs positifs aujourd'hui qui apparaissent. Au lieu d'un déficit de la balance commerciale qui commençait à poindre, si je puis dire, vous avez et surtout un déficit très important de la balance des produits industriels, commerciales des produits industriels, maintenant vous avez une montée en puissance des exportations de produits industriels. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est positif, de même le fait que l'inflation soit faible. Mais je voudrais revenir sur un autre point, si vous permettez,
oui,
et
allez-y.
Qui reflète un peu ce que dit votre reportage sur Rio de Janeiro. Quand on dit, vous utilisez l'expression « captation de rente », je veux bien, mais quand vous mettez tout de suite après les retraites comme une rente, moi je pensais à autre chose, je pensais que vous parliez d'autre chose.
Vous alluse
à ce que
stupéfait. Vous faites allusion à ce que disait Jean-Yves Carpentan, ou 53%
absolument,
absolument. Du budget
Je suis resté pantois. Alors je connais des chiffres, je vais en donner quelques-uns. En 2015, les retraites, il faut les réformer les retraites, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il ne faut pas les réformer, il faut les retraites. Mais les retraites pesaient en termes de PIB à peu près 8,5%, ce qui était énorme.
Le PIB, je rappelle, c'est le produit intérieur brut.
Mais les dépenses d'intérêt du service de la dette étaient exactement pareilles. C'est-à-dire, quand vous parlez de rente, parlez aussi également de cette financiarisation fantastique qu'il y a eu dans ce pays. Ça, je crois que c'est très... Et ça se reflète ici, là. Ça se reflète dans votre reportage. Je crois que ça, c'est vraiment très, très important. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, on est plutôt autour de 5% du PIB parce que les taux d'intérêt ont baissé, mais c'était les plus élevés du PIB,
donc,
du produit intérieur brut.
Oui, consacré
les dépenses,
à quoi ?
À les charges d'intérêt.
Les charges d'intérêt. C'est le pays dans lequel vous aviez, en Amérique latine tout au moins, mais même ailleurs, vous aviez les taux d'intérêt réels les plus élevés du monde. C'est quelque chose quand même qui est fantastique. Ça représente le poids des lobbies du secteur financier. Ça représente beaucoup de choses qu'il faudrait analyser. Et là, vous avez effectivement d'autres analyses en termes de captation de rente. Et non pas ce que vous venez de dire, je crois. Et là, j'en suis quand même. Quand on
vous
savez quand avec
vous
quoi
tournez,
on vivait,
Jean-Yves Carpentan, faut décrire
parler,
ce qui se passe dans
bon,
le studio.
Je vais vous donner un exemple.
Non, on a parlé un instant.
Je vais donner un exemple. Oui, les magistrats, tout le monde n'est pas magistrat. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, vous avez travaillé sur la pauvreté. Vous savez qu'en fin de compte, la bolsa familia, la bourse famille, a permis d'abaisser l'extrême pauvreté. L'extrême, mais pas la pauvreté. Ou très peu. Et ce qui a permis d'abaisser la pauvreté, c'est le fait que le salaire minimum a augmenté énormément, peut-être trop, je ne sais pas, a augmenté énormément, et ce qui, les retraites sont indexées sur, ou étaient indexées sur ce salaire minimum, et ça a permis effectivement une redistribution et une diminution massive de la pauvreté. C'est-à-dire, la pauvreté n'a pas baissé à cause de la bourse famille, elle a baissé surtout à cause de la politique vis-à-vis du salaire minimum, qui a joué via les retraites par la suite, dans sa diffusion, et a permis d'abaisser la pauvreté. Ça, ce sont les faits, c'est ce dont on doit, je crois, parler. Je suis désolé d'être un peu brutal comme ça, parce que je connais bien, le Brésil, c'est presque mon deuxième pays. Quand je vois le degré de souffrance dans lequel on est dans ce pays, et quand on va parler des pauvres retraités comme si c'était tous des magistrats, je crois que là, monsieur, vous exagérez.
Jean-Yves Carpentan.
Je soutiens que le...
Vous soutenez à la vie paulista.
Un certain nombre de catégories professionnelles, je ne dis pas toute la population, loin s'en faut, et je ne connais pas que le Brésil de la nuit paulliste. Je travaille dans une ONG qui s'occupe beaucoup de problèmes d'extrême pauvreté et de difficultés du système éducatif dans différents états du Brésil, et ceci depuis maintenant 20 ans. Donc je ne suis pas seulement sur...
Dans les quartiers bourgeois.
Les quartiers bourgeois de São Paulo. Et d'ailleurs, mon quartier n'est pas un quartier bourgeois. Je crois qu'il y a un certain nombre de catégories professionnelles les cadres les plus aisés, la haute fonction publique, qui bénéficie de régimes de retraite qui représentent une ponction très sérieuse sur les finances publiques, que ce soit au niveau de l'État fédéral, que ce soit au niveau des États fédérés. Et c'est un élément de blocage. Quand je parlais de recherche de rente, je pensais aussi aux entreprises qui, au lieu de se battre sur les marchés, d'améliorer leur compétitivité, de chercher des débouchés à l'export, de produire des biens dont la valeur est socialement reconnue, cherchent à capter des faveurs auprès de l'État. On en a eu des démonstrations très claires depuis maintenant 15 ans. Absolument. Comment ces entreprises ont eu accès à des marchés publics? D'accord. Comment ont-elles négocié des accès aux marchés ouverts par l'extraordinaire développement des chantiers ouverts par Petrobras, par exemple? Je pense surtout à ce phénomène-là. Un capitalisme qui, au lieu de se développer normalement sur un marché, se développe protégé par un État, auprès duquel il recherche des faveurs et dont il reçoit un certain nombre d'avantages, marchés, etc., en finançant par ailleurs. Il y a une énorme déperdition de richesse de ce côté-là. C'est sans doute ce qu'évoquait cette dame qui était interviewée en disant « Nous sommes un pays riche, il y a beaucoup d'argent qui a été détourné. »
Alors on va faire redescendre un peu la température dans ce studio avec un groupe qui s'appelle Rivière Noire et qui chante de la musique brésilienne. Rivière Noire, dans un titre en brésilien, Naova Embora. Excusez-moi pour l'accent, messieurs, vous tous qui fréquentez abondamment le Brésil. Ludovic Subran, je vous ai observé, vous étiez particulièrement stoïque pendant ce débat, cette conversation entre Pierre Salama et Jean-Yves Carfentan. Vous en pensez quoi? Le Brésil, c'est un État kleptomane, soumis à des intérêts privés?
Ce qui me fascine toujours dans les économies d'Amérique latine, c'est qu'on a toujours ce pendule politique très fort. Surtout dans un moment où la France est bloquée dans ce centrisme un petit peu de posture. Je trouve que ce qui est génial dans les pays d'Amérique latine, c'est qu'on a toujours une gauche et une droite, et on a cette alternance, et que forcément on fait des raccourcis, et c'est ce que M. Salama et M. Carfenton essaient de décortiquer, alors avec la limite du temps. C'est-à-dire que, bien sûr que le système d'impôts brésilien est un des pires au monde, bien sûr que la rente énergétique est allée dans les mauvaises poches, mais bien sûr qu'ils ont fait des efforts incroyables de redistribution et qu'ils essaient de sortir les pauvres. Et que lorsqu'on passe, c'est vrai, de Dilma à Temer, eh ben on choisit de faire vaciller le pendule, et que ça crée forcément, c'est ce que la dame disait dans le reportage, c'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est d'expliquer cette politique d'austérité où on baisse de plus d'un point le déficit public, mais de deux points, en effet, au total, le déficit public brésilien va baisser de trois points.
Donc on baisse les dépenses.
On baisse les dépenses, et puis on essaie, c'est vrai, de trafiquer ou de détricoter une partie de la redistribution qui fonctionnait bien. Alors après, il y a forcément des exagérations sur la redistribution brésilienne. Vous parlez de la fonction publique, mais je me rappelle, ce qui est drôle, c'est ce qui fait aussi cette proximité entre l'Amérique latine et la France, c'est que on a aussi nous ces mêmes discussions, à part qu'elles sont beaucoup moins bouillonnantes. C'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'arrive plus à avoir ces discussions qui sont très liées au modèle économique qu'on veut pour le pays. Moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse sur le Brésil, c'est qui va gouverner, quelles sont les prochaines étapes, parce que on a aujourd'hui la double peine, c'est-à-dire qu'on a des gens, on a des marchés qui sanctionnent, on parlait de l'hyperfinanciarisation du Brésil tout à l'heure, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire c'est un pays qui est très peu ouvert commercialement, mais qui est très trop ouvert financièrement. Et donc, il prend vraiment cette double peine de cette financiarisation, mais pas de cette ouverture de compétitivité économique. Et puis, à côté, on a, c'est vrai, une paupérisation de la population au cours des trois dernières années qui est assez majeure. Et donc, on a soit un besoin de synthèse, et donc il faudrait leur envoyer Macron quelque temps, soit retrouver un discours politique économique un petit peu plus sensé. Parce qu'aujourd'hui, le problème des partis et des programmes, c'est que c'est la bérésina. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de bien ou de bon pour la suite de l'économie brésilienne. C'est-à-dire que le diagnostic est mal fait ou très dogmatique et les solutions apportées sont loin des problèmes du monde actuel.
On parle d'austérité, pourtant ça ne date pas d'hier. En avril 2015 déjà, des manifestants descendaient dans la rue pour protester contre la politique d'austérité de Dilma Rousseff. Et le 12 avril de cette année 2015, RFI diffusait ce reportage de son correspondant Martin Bernard.
Dilma, dehors, dehors le PT, le parti au pouvoir depuis 12 ans. Les mots d'ordre se veulent on ne peut plus clair. Devant le musée d'art de São Paulo, sur la grande avenue Paulista, les manifestants ont déroulé une gigantesque banderole vert et jaune, avec en grosses lettres noires le mot « impeachment », soit la destitution pour Dilma Rousseff. À l'origine de la colère des manifestants, la corruption surtout, qui a ravagé Petrobras, la compagnie nationale pétrolière, mais aussi l'inflation et la récession qui s'est traduit déjà par une hausse du chômage. Un cocktail explosif alors que Dilma Rousseff vient d'adopter une politique d'austérité qu'elle rejetait justement pendant la campagne électorale il y a 6 mois.
Je suis indigné comme tous les Brésiliens qui payent des impôts et n'obtiennent rien en retour. Nous payons autant d'impôts que les Suédois ou les Norvégiens. Mais on a des services publics à la hauteur du Ghana ou du Venezuela. Il y a trop de gens qui volent, trop d'impunité. Et j'aimerais qu'on implante ici une des plus célèbres inventions françaises, la guillotine.
Le mouvement se radicalise, mais Dilma Rousseff a répliqué sur Facebook ce dimanche « La guerre contre la corruption, affirme-t-elle, est une action permanente du gouvernement. »
Un reportage, je vous le rappelle, que nous avons tiré de nos archives sonores via la Sonothèque de RFI qui date du mois d'avril 2015. Alors là, on ne parle pas de Macron qui n'existait pas encore au niveau où il est, Ludovic Subran, mais de la guillotine. Donc, il y a de l'austérité aujourd'hui, mais il y en avait déjà en 2015, à l'époque où le pays était en récession, Pierre Salama.
Le grand problème, c'est que Dilma a fait une campagne électorale pour son deuxième mandat sur la base d'un mensonge. Elle a fait une campagne contre le libéralisme et la première chose qu'elle a faite quand elle a été élue, c'est d'essayer de nommer le président directeur de la Bradesco. Lequel n'a pas voulu, une des plus grandes banques du Brésil. Et lequel n'est pas allé, mais il a envoyé Joachim Levy, qui était son second, plus ou moins, et qui effectivement a mené une politique d'austérité. Donc là, la parenthèse était très courte, si je puis dire, pour utiliser l'expression française, vous vous souvenez du temps de Mitterrand, etc. Là, on a eu même pas une journée. Et ça a beaucoup joué. En plus, ce que je peux dire aussi, c'est que le premier mandat de Dilma Rousseff n'a pas été à la hauteur de celui de Lula. Bien sûr, elle a eu de la malchance, entre guillemets. Elle paye avec la politique de Lula, c'est une certaine mesure de ne pas avoir favorisé l'industrie, de ne pas avoir favorisé les accroissements de productivité, la compétitivité, etc. Elle paye tout cela et elle paye aussi la chute du cours des matières premières. Et ça a été, je crois, un très grand problème. Alors donc, elle a oscillé. Pendant 6 mois, elle faisait une politique pro-industrie. Pendant 6 mois, elle faisait une politique anti-industrie, si je puis dire. Et s'est mise totalement, des gens totalement à dos, notamment dans le secteur patronal. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors que Lula était à la fois, et c'est bon de le souligner, était le père ou la mère des pauvres et le père des riches. Il a quitté le pouvoir avec 80%, si je me souviens, de votation pour. Hein. Ça n'a pas été du tout le cas de Dilma. Et Dilma n'est pas du tout à la hauteur, n'était pas à la hauteur. Mais ceci dit, est-ce que ça justifie qu'on la mette à la porte un an et demi après? Ça non, c'est pas possible. C'est comme si nous, on avait mis à la porte Hollande. Ça prouve bien au contraire la fragilité institutionnelle du Brésil d'avoir mis à la porte quelqu'un qui venait d'être élu, qui venait de légitimer, qui faisait des bêtises peut-être, etc., qui perdait de sa crédibilité, mais de l'avoir mis à la porte pour le remplacer par un clown, excusez l'expression, qui, lui, a flirté avec 3%, je crois, de crédibilité. Si
regardez le micro, parlez dans le micro.
Je m'excuse. Donc là, je pense qu'on est en face d'un véritable, à mon avis, problème. Mais je voudrais quand même encore souligner une chose. C'est que le Brésil part de très très loin, de toute manière. Ce qu'a fait Lula, c'est énorme et c'est en même temps epsilon. Il part de très très loin parce que c'était quand même un des pays les plus inégalitaires du monde. C'est cela qu'il faut comprendre. Ce n'est pas la France, le Brésil. En France, on est... bon, il y a des inégalités, mais à côté de ce qu'on sait, de ce qu'il y a au Brésil. Et ça, je crois, dans votre reportage, probablement, il y a eu plusieurs interviews qui ont été faites. Il y a eu plusieurs manifestations qui ont été faites contre Dilma. Mais je sais aussi qu'il y a eu des manifestations de gens qui étaient furieux de la politique de Dilma et de Lula pour les pauvres. C'est-à-dire, ils n'acceptaient pas qu'on ait pu aider les pauvres. Ils pensaient même que les pauvres occupaient toutes les places d'avion et que c'était à cause de la politique de Lula et de Dilma qui ne pouvaient pas prendre l'avion. Et c'est ça qu'on entend quand on dit comme ça, on va revenir, il faudrait revenir vers la guillotine. Et c'est ça qui est, je crois, qui est très très dommage. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut retrouver quelqu'un pour le Brésil, quelqu'un de consensuel, quelqu'un qui puisse parler aux deux. Si on ne le fait pas, je crois que là, je serais très très pessimiste et nombre de Brésiliens sont très très pessimistes sur le futur.
Alors, il y a un redémarrage modeste de l'économie brésilienne. L'agriculture et l'élevage jouent un rôle moteur dans ce phénomène. Le Brésil reste le premier exportateur de viande bovine au monde et le pays compte amplifier cet avantage en augmentant ses exportations vers l'Europe, malgré les polémiques et un risque certain de déforestation. Écoutez ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé François Cardona, le correspondant de RFI au Brésil.
Sur des centaines de kilomètres à la ronde, s'étendent des élevages de bovins destinés à l'exportation. Le Brésil possède près de 220 millions de têtes de bétail sur plusieurs centaines de milliers d'hectares. André Reis est l'un des principaux producteurs de viande du sud du pays. Dans sa ferme, il élève en permanence 15 000 bêtes.
Voilà comment on donne à manger aux bêtes. Le premier régime ici est à base de fibres, avec beaucoup de protéines.
En un temps record, 3 mois, ces bêtes sont prêtes à partir à l'abattoir. Dans les enclos, elles sont nourries pour engraisser très rapidement.
Dans un pâturage normal, une bête pourrait prendre environ 500 grammes par jour. Ici, grâce à notre méthode, nous arrivons à leur faire prendre près d'un kilo 800 grammes par jour. Après leur séjour ici, nos bêtes pèsent 180 kilos de plus qu'à leur arrivée.
Du peso de entrada au peso final.
Une fois débutées, elles partent pour le monde entier en conteneurs réfrigérés. Ce matin, c'est l'ouverture du salon de l'agriculture, l'AgriShow. Cet événement attire plus de 150 000 visiteurs et s'apprête à recevoir la visite du président Michel Temer. Ces 2 dernières années, des scandales sanitaires à répétition ont révélé des fraudes très nombreuses sur la qualité de la viande brésilienne exportée, parfois avariée. Alors, les grands négociants du monde agricole brésilien ont besoin du soutien présidentiel.
Nós saímos aqui entusiasmadíssimos, quer dizer...
Je sors d'ici extrêmement enthousiaste.
Cela vaut vraiment la peine de parier sur le Brésil. Ce salon, nos discussions, ce sont autant de facteurs positifs pour l'avenir de notre pays. Alors je vous demande un applaudissement pour notre salon de l'agriculture et pour notre pays. Merci.
Les enquêtes qui ont suivi les scandales sanitaires ont révélé de vastes réseaux de corruption au sein même du ministère de l'Agriculture et des organes de contrôle de la qualité de la viande. Secteur stratégique pour le Brésil, l'agriculture est largement sous l'influence d'un lobby parlementaire très puissant. C'est ce que dénonce Adriana Charroux de l'ONG Greenpeace.
Les politiques qui ont le plus de poids dans la prise de décision sont aussi de grands propriétaires terriens. Ils sont très influents sur les critères d'exportation, sur le modèle de production agricole, et les décisions sont prises en fonction de leurs intérêts personnels. Et cela va se poursuivre.
Fin avril dernier, des centaines d'indigènes ont manifesté à Brasilia, la capitale, pour protester contre les grands propriétaires terriens accusés de détruire leurs forêts pour la transformer en pâturage. Les accords du Mercosur risquent d'accroître encore davantage la pression sur ces communautés.
Un reportage signé François Cardona. C'est bien d'être le premier exportateur de viande au monde, Jean-Yves Carfrantan, mais on a l'impression que le Brésil reste avant tout un producteur de matières premières.
Je suis toujours frappé dans ces reportages sur la distance que je perçois entre l'image que tout cela donne de l'agriculture brésilienne et la réalité que je vois au quotidien depuis 20 ans. Le Brésil est effectivement un pays qui dépend beaucoup d'exportations agricoles. Mais c'est un atout considérable dans le monde d'aujourd'hui. Il faut quand même rappeler que nous avons vécu ces dernières décennies un certain nombre de chocs alimentaires à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, le Brésil est en train de tisser des accords stratégiques très importants avec un certain nombre de pays d'Asie, par exemple, avec la Chine. Et demain, peut-être, nous pourrons, avec la Chine, arriver à négocier autre chose que de vendre des matières premières fabriquées, par exemple...
Quand vous dites « nous », c'est le Brésil.
Le Brésil, oui, parce que je suis brésilien.
Aussi.
Donc, ce « nous ». Nous aurons peut-être la possibilité de vendre à la Chine des produits beaucoup plus élaborés. Et ça commence d'ailleurs dans un certain nombre de secteurs. Pas seulement la viande, je pense particulièrement à la filière du soja, à la filière du coton, à la filière du café. On arrivera peut-être demain à vendre par exemple des capsules à la Chine. Nous sommes devenus
des
un partenaire...
Des capsules de café.
Des capsules de café, oui. Nous sommes devenus un partenaire très important de la Chine. L'agriculture est un secteur qui a peu connu la crise dont on a parlé depuis le début de cette émission. Nous sommes passés depuis 4 ans... relativement indemne, parce que c'est un secteur qui est de plus en plus organisé en fonction des débouchés qu'il trouve sur le marché mondial. Et j'ajoute que c'est un secteur qui crée des emplois. J'ajoute que c'est un secteur qui contribue, là où il se développe, à améliorer les revenus. Dans le sud du Piauí, par exemple, un des États les plus pauvres du Brésil, si vous prenez les indicateurs de développement humain, vous apercevez que les choses ont beaucoup bougé depuis 20 ans, parce que des nouvelles agricultures, des agricultures plus modernes, se sont implantées. Donc il ne faut pas voir tout en noir ou tout en gris. Il y a aussi dans cette agriculture des aspects très positifs, y compris sur le plan du développement du pays dans toutes ses dimensions.
Vous niez que cette agriculture contribue à la déforestation, par exemple ?
Elle a beaucoup plus contribué dans le passé, et il s'agit essentiellement de l'élevage bovin. L'agriculture brésilienne ne se réduit pas à l'élevage bovin. Il s'agit essentiellement des filières d'élevage qui ont effectivement traditionnellement considéré qu'à partir du moment où les terres de pâturage étaient épuisées, il fallait en chercher ailleurs. Et il faut ajouter que pendant des décennies, l'État brésilien, pendant le régime militaire et déjà avant, encourageait des migrations intérieures, encourageait des jeunes agriculteurs à s'installer dans des régions et éventuellement, on n'avait pas la conscience écologique d'aujourd'hui. Tout ça demande du temps. Il y a eu un code de réglementation de la relation, des problèmes de forêt, par exemple, qui a été adopté il y a quelques années. Tout ça demande du temps pour être mis en place. Il y a un cadastre qui est en train d'être mis en œuvre à l'heure actuelle pour surveiller de plus près ce que les agriculteurs font. Je crois que le problème existe encore, mais il n'a pas les dimensions qu'il avait il y a quelques années et notamment, il a beaucoup diminué à l'époque des gouvernements dont on parlait tout à l'heure.
Ludovic Subran, l'agriculture, c'est une planche de salut pour l'économie brésilienne ?
C'est une planche de salut et malheureusement, je pense qu'ils n'investissent pas assez. C'est-à-dire quand on voit les scandales sanitaires, on a tous entendu parler de ces filières volailles, mais aussi bovines, avec cette liste d'une vingtaine d'établissements brésiliens qui sont interdits d'exporter vers l'Europe. On sent que, pareil, c'est un des drames du Brésil, c'est-à-dire que c'est un secteur qui a porté l'économie, qui a servi d'amortisseur face à la crise. On parlait tout à l'heure, quand vous avez passé le petit son sur Dilma Rousseff, c'était vraiment Fome Selo qui était ce programme de lutte contre vraiment la faim au Brésil. Ça, vraiment, la structuration du secteur en domestique et à l'international a été majeure au cours des 10-15 dernières années. En revanche, on voit maintenant qu'ils arrivent au bout du modèle s'ils ne remettent pas des sous dans la machine, notamment dans la réglementation, tout ce qui est aspect qualité, sécurité alimentaire au sens de qualité sanitaire. Je trouve que ça, c'est un petit peu dommage parce que ça pourrait être vraiment le fer de lance de l'agriculture, de l'exportation brésilienne. On le voit aussi sur les soja OGM. C'est-à-dire qu'on a là aujourd'hui, alors c'est vrai, hein, ils sont en train d'aller chercher des partenariats plutôt au Vietnam, en Chine. On voit là peut-être un endroit où il faudrait avoir un plan Marshall de l'agriculture pour vraiment en faire le premier secteur, mais surtout sécuriser une partie de ces filières à l'international. Alors après, c'est vrai que peut-être qu'ils n'ont pas besoin de l'Europe et que les débouchés européens sont moins importants parce que le poulet, il suffit de l'exporter en Chine et il marchera très très bien.
Jean-Luc Carfantan, je vois
du tout l'histoire du plan Marshall. L'agriculture est un secteur qui fonctionne de moins en moins avec le soutien de l'État. C'est de moins en moins important.
Cette année, c'est pas les subventions de l'État, c'est aussi la régulation de l'État.
La régulation, tout à fait d'accord. Il faudrait renforcer considérablement.
C'est ça qu'ils ne savent pas faire au Brésil. Regardez les scandales alimentaires.
Les équipes des inspecteurs sanitaires.
Bien sûr.
Mais sur le plan du financement de l'agriculture, il n'y a absolument pas
besoin de l'État. Vous parlez pas tous les deux ensemble.
Mais c'est important de différencier le rôle de l'État. C'est que malheureusement, encore une fois, il faut faire attention aux dogmes. L'État, c'est pas seulement des subventions. L'État peut donner un cadre pour que le secteur privé arrive à croître. Et dans le cas du Brésil, c'est que l'État a été soit dans la subvention et donc a décidé de façon très verticale de certaines filières, et ça, on est d'accord, c'est pas forcément comme ça que ça marche dans une économie mondialisée. En revanche, l'État est complètement absent de la partie contrôle de la filière agricole, et c'est ce qui fait aujourd'hui une des faiblesses, le fait que le secteur de l'agriculture brésilien est un géant au pied d'argile. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à résoudre ces scandales sanitaires à répétition, les Brésiliens eux-mêmes s'en plaignent, mais surtout à l'international, la réputation de la marque agricole brésilienne est aujourd'hui en jeu.
Pierre Salama.
Oui, non, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Je pense que c'est le problème de régulation. Je crois que c'est plus possible de continuer dans la même voie et ça risque de coûter extrêmement cher sinon. J'aurais juste ajouté une chose, c'est que c'est vrai qu'il faut développer le secteur agricole, maîtriser et le maîtriser en même temps dans le cadre d'un développement durable. C'est vrai, mais aussi il faut penser aux conséquences macroéconomiques précisément de ce qu'on a appelé cette reprimarisation. Le fait que au Brésil, on n'ait pas lutté, bien au contraire, on n'ait pas lutté contre l'appréciation de la monnaie, eh bien ça veut dire qu'on a favorisé le déclin de l'industrie. Et le déclin de l'industrie, je crois que ça coûte très cher, à mon avis, aujourd'hui, pour précisément...
Mais sur le terrain, comment ça se traduit, ce déclin de l'industrie ?
Sur le terrain, c'est les taux d'investissement très bas, en gros.
Dans quel secteur ?
Y compris dans l'industrie, dans tous les secteurs.
L'automobile, par exemple, la machinerie, l'outil, la machine équipement.
La productivité,
l'accroissement
de la productivité du travail, c'est même pas 1% par an en moyenne. Un peu plus dans l'industrie, c'est vrai, mais c'est pas grand chose. À l'heure où il y a une révolution scientifique à l'heure actuelle, comme en Chine, qui se déroule, qu'ils assument, etc., cette révolution, le Brésil est en train plus ou moins de passer à côté. Il a encore quelques chances, il y a encore quelques opportunités pour effectivement entrer dans le jeu. Mais ce qu'on a pu observer, c'est ces dernières années, c'est qu'il est passé à côté de la révolution numérique, par exemple. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Et c'est une des conséquences, dans une certaine mesure, indirecte, certes, de non-maîtrise du succès, précisément, du boom du prix des matières premières et de la reprimarisation de ces économies. Mais ce n'est pas le cas seulement pour, malheureusement, le Brésil. Vous retrouvez ça aussi également en Argentine et en d'autres pays.
Jean-Yves Carfantan, je voudrais vous interroger sur le mot de la fin. Un État trop fort ou un État trop faible au Brésil? Tout au long de l'émission, on a oscillé entre ces deux descriptions de l'action trop forte ou trop faible de l'État brésilien.
Je répondrai les deux. Il est trop important là où il n'a rien à faire, par exemple subventionner les entreprises. Il est beaucoup trop faible là où il devrait être engagé beaucoup plus fortement. Dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures sanitaires, dans le domaine de l'école, l'éducation, la révolution dont on parlait tout à l'heure, la révolution technologique, ça va passer de plus en plus par la capacité de recherche, la capacité d'innovation. L'école est encore en situation extrêmement difficile au Brésil. Le domaine, la débureaucratisation, l'État est à la fois trop important et pas assez important. Il est trop engagé là où il n'a pas grand-chose à faire. Il n'est pas assez engagé là où il devrait assurer le futur et la sécurité des citoyens.
Merci à vous trois. Cette émission est maintenant terminée. Ludovic Subran, Jean-Yves Carfantan, Pierre Salama, merci d'avoir accepté l'invitation de RFI. Merci à Laurent Sarniguet de la Sonothèque pour sa contribution importante. Vous pouvez nous réécouter en vous rendant sur la page Éco d'ici, Éco d'ailleurs, à l'onglet émission du site www.rfi.fr ou alors si vous préférez sur votre téléphone portable via l'application Pure Radio. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.